On ne peut pas arriver à construire un féminisme égalitaire s'il n'y a pas la démocratie. Quand il y a un retour de régime totalitaire, ce qui est menacé d'abord, ce sont les droits des femmes, et notamment les droits du corps des femmes.
Michèle Perrot a 90 ans. En mai 68, elle avait déjà 40 ans et c'était déjà une historienne très respectée, spécialiste des luttes du mouvement ouvrier.
Oui, bonjour, c'est Marie Misset pour l'interview, pour l'entretien.
Mai 68, pour Michèle Perrot, ça a été un tournant, un point de rupture qui l'a poussée à s'intéresser au rôle des femmes dans l'histoire. C'est une vraie pionnière à qui l'on doit d'avoir fait résonner femmes et histoire. Aujourd'hui, elle nous accueille toute fraîche dans un bel appartement où, dans le salon, il y a un portrait de la duchesse de Montpensier. C'est la femme qui a mené la fronde contre Louis XIV et elle nous regarde.
C'est la grande mademoiselle à l'incendie de l'hôtel de ville. Marquez qu'elle tient l'épée. C'est très important.
Michèle Perrot, à sa manière très douce et très sereine, c'est aussi une frondeuse, une vraie. Et c'est cette frondeuse hyper douce que je suis venue rencontrer.
Alors, expliquez-moi tout. Vieille branche, la podcast, ouais. Vieille branche, tout ça, c'est en liaison avec France Culture.
Vieille branche, chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la vie, encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche!
Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je m'appelle Marie Misset et aujourd'hui, je suis dans le salon de Michèle Perrot. Bonjour Michèle Perrot.
Bonjour Marie.
Je suis très honorée de vous rencontrer. Je ne vais pas en dire tellement plus, mais vraiment, je suis très heureuse. Alors, vous êtes... Vous avez la particularité d'être à la fois une historienne, tournée nécessairement un petit peu donc vers le passé, et d'avoir ouvert cette brèche extraordinaire, d'avoir permis l'avènement de tout un champ d'études nouveau, l'histoire des femmes. Et on reviendra peut-être un petit peu même sur cet intitulé, l'histoire des femmes. Alors vous y êtes pas venue tout de suite, ça n'a pas été surtout votre unique objet de recherche, mais c'est un véritable mur de silence que vous avez brisé à l'époque, pas seul, évidemment pas seul. Vous avez aussi opéré une sorte de glissement de l'histoire du collectif, de l'histoire des structures à une histoire plus intime. Votre œuvre la plus symbolique à ce propos, c'est sans doute « Histoire des chambres ». Histoire de chambre.
Histoire de chambre, voilà.
Mais et évidemment aussi votre contribution à Histoire de la vie privée, dont j'avais les 5 tomes dans ma chambre pendant toute mon adolescence, sous l'égide de Georges Duby, qui a fait rentrer les jeunes, les femmes, l'amour, la violence, la beauté dans l'histoire. Encore une respiration dans un espace qui était peut-être un peu corseté avant. Alors j'ai envie de vous poser 1 million de questions, j'en ai préparé qu'une centaine et j'aurai probablement pas le temps de toutes les poser. Mais on va commencer peut-être par le début. Ça a commencé quand pour vous, le début de votre vie, vous le situez quand?
De quelle vie?
Ah. Disons de votre vie d'adulte.
Ma vie d'adulte. Écoutez, les choses sont simples. Je suis née en 1928. Ce qui veut dire que j'ai eu une enfance avant la guerre. Hein. Et cette enfance avant la guerre a beaucoup compté, à tout point de vue, évidemment, affectif, personnel, mais même politique, parce que j'ai connu, dans le Paris d'avant-guerre, le Front populaire. Hein. Nous habitions, mes parents et moi, nous habitions en plein cœur de Paris. Nous habitions rue Greneta, qui est une rue qui croise la rue Saint-Denis, tout près du Sébasto, etc., etc. Et j'allais en classe rue de Chabrol. Et j'ai arpenté ce quartier de long en large. Et c'était un quartier très populaire. Il y avait les Halles, d'abord. Et puis, il y avait plein de petites fabriques d'ouvrières. Puis c'était surtout des femmes, de la confection, le sentier, bien entendu. Mais à cette époque-là, c'était pas seulement le tissu, c'était aussi les fabricatures textiles. Et en 1936, ça a été occupé. Elles occupaient leurs ateliers et j'en ai gardé un souvenir ébloui parce qu'elles chantaient.
C'est-à-dire que vous avez de votre enfance cette mémoire de femmes non seulement qui travaillent, mais qui luttent pour leurs conditions.
Oui, je mesurais pas ça du tout, vous imaginez, j'avais 6 ans. Donc c'est plutôt un souvenir de bruit, vous voyez. C'est souvenir de chant, de danse. Et c'était très gai, alors qu'autour de moi, je voyais plutôt les gens inquiets. Et ça, c'était tout à fait un contraste. Bon, alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, bien entendu, mais c'est quand même important de se situer dans le temps, puisque vous me posez cette question-là. J'ai fait toutes mes études dans un collège religieux qui s'appelait le Cours Bossuet, qui existe d'ailleurs toujours. Mais à l'époque, il a changé maintenant, il était tenu par des religieuses de l'ordre de la retraite, qui étaient des très braves femmes, hein, j'ai absolument rien contre elles, mais qui évidemment étaient des religieuses très strictes et très pieuses, et qui au moment de la guerre, car j'ai vécu là la fin de mon enfance et mon adolescence, elles étaient en sécu, comme on disait avant, c'est-à-dire sécularisées. Elles avaient un petit costume, pas beau du tout, tout noir avec un petit col blanc, et avec Pétain, elles sont revenues avec un costume religieux. Hein. Et alors, elles étaient beaucoup plus belles. Elles se sentaient beaucoup plus belles, évidemment. Nous, on ne voyait pas du tout pour tout ça. Et tout ça m'a beaucoup marqué, mais ce qui était compliqué, c'est que mes parents étaient des mécréants. Ils m'avaient mis dans ce collège pour que je fasse ma communion, à la demande de ma grand-mère paternelle. Mais eux étaient terriblement détachés et ils ne pensaient absolument rien comme les religieuses du Cours Bossuet. Donc, pour moi, ça a été une période pas simple du tout, où j'avais un sentiment d'un profond fossé entre les deux. Et je suis tombée malade, d'ailleurs. C'était aussi la guerre, on ne mangeait plus. Enfin, c'était plus le manque de... On arrivait quand même à trouver quelque chose à manger, mais... C'était surtout l'angoisse, voilà, c'était l'angoisse. Et tout ça fait que quand j'ai passé le bac en 45, donc la fin de la guerre et mon baccalauréat, ça va ensemble, je fais philo en 45-46, et mon père me dit en 46 après le bac, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, hein? Mon père était... féministe sans le nom. Le nom l'aurait même probablement agacé, mais très, très, vraiment.
Il vous a toujours encouragé.
Tout à fait, tout à fait féministe. Et
anarchiste presque, non ?
Anarchiste, pas de gauche, hein, un peu anard de droite, plutôt, un petit peu comme ça. Mais anard quand même. Il avait fait la guerre 14-18, dont il ne parlait jamais, sauf pour se mettre en colère. Pour se mettre en colère, et pour lui, ça avait été une boucherie. D'ailleurs, Pétain, dont on parle beaucoup ces jours-ci, il disait « le boucher de Verdun ». Hein, j'ai toujours entendu parler, et vous imaginez bien qu'il a été anti-Pétain pendant la guerre. Et donc, il y avait cette ambiance tout à fait étonnante. Alors, mon père donc me pousse à travailler, à m'émanciper, etc. etc. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, je lui dis, je crois que je ferais bien de l'histoire. Oh, dis l'histoire, oui, c'est très intéressant l'histoire, très très bien, mais comment tu vas gagner ta vie avec ça ? Je n'avais pas tellement pensé à ça. Ben, je lui dis, professeur, oh, il me dit, professeur. Et il ne trouvait pas ça formidable. Hein. Il me dit, mais tu devrais faire ta médecine. Tu devrais faire ta médecine, c'est bien, et puis il n'y a pas beaucoup de femmes encore, enfin. Et ben, je n'ai pas eu la hardiesse de faire ça. Il faut dire que j'étais dans ce collège dont je vous parlais, les sciences étaient très mal enseignées. Ce n'était pas mauvais en lettres quand même, mais on faisait du latin évidemment, la littérature comptait quand même beaucoup. Mais les sciences... Quand j'en ai parlé à un jeune professeur, étudiante, parce que les bonnes sœurs, il y avait des matières justement qu'elles ne connaissaient pas du tout, alors elles faisaient appel à des étudiantes. Et c'est comme ça que j'ai eu comme professeur Benoît de Groult.
Oui,
Hein, oui. Benoît Groult
qui en... parle peut-être pas de vous, mais
non,
de ses étudiantes
tout.
Plus tard
pas
dans un livre en disant qu'elle ricanait.
Quand je lui ai rappelé qu'elle avait été mon professeur, elle m'a regardé d'un air sidéré et elle a pas tellement tenu à m'en reparler. C'était pas pour elle un très bon souvenir, alors que pour moi c'était le contraire. C'était une physionomie délurée, qui changeait des bonnes sœurs. Elle avait un chapeau de feutre à la Darieux, comme on portait à cette époque-là. Et le professeur alors de sciences nat, qui était une fille aussi formidable, que j'avais consultée, je lui ai dit, mon père me conseille, elle me dit, mais écoutez Michel, avec le niveau de science qu'il y a ici, vous allez avoir les pires difficultés. Ou alors il faudrait que vous fassiez une année. Enfin, bref, elle m'a plutôt dissuadée. Conclusion, ça a été pour moi un argument pour dire à mon père, jamais je réussirai dans tout ça. Donc mon père m'a dit, fais ce que tu veux finalement. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'histoire.
Vous parlez quand même d'un choix contraint pour l'histoire. Vous dites, ça n'a pas non plus été une vocation.
Non, c'était pas une vocation absolue. Quand je dis choix contraint, c'est que il y avait ce que je ne pouvais pas faire. Vous voyez, il y avait toutes sortes de choses que je... Mais je me sentais nulle. Il faut vous dire la vérité, je me sentais nulle. Je suis entrée à la Sorbonne. Mes parents m'ont dit, mais tu devrais peut-être faire une classe préparatoire. Ils avaient raison, d'ailleurs. C'était très raisonnable. Mais j'en avais assez de la discipline. J'en avais plus que marre de mon collège. Je rêvais de liberté. Pourquoi pas l'université ? Et donc, je suis allée à l'université, que j'ai trouvée formidable.
À la Sorbonne.
À la Sorbonne, c'était merveilleux. Moi, j'ai tout aimé. Hein. Même les profs, que tout le monde disait, « Oh, celui-là, il est un peu aigrotant, ou ceci, cela. » Moi, je l'ai trouvé formidable.
Parce que c'était encore une chance à l'époque, quand on était une femme, de pouvoir arpenter ses couloirs, de pouvoir...
Oui, il y en avait quand même de plus en plus.
Il y en avait.
On était minoritaires. Mais il y en avait, j'étais pas toute seule, loin de là. Hein. Non, j'avais des amis, femmes, sans aucun problème. Non. Et c'était même une atmosphère très égalitaire.
Oui, hein. C'est plutôt,
plutôt même très égalitaire.
Oui. L'homme qui a dirigé votre thèse, Ernest
Labrousse.
Oui, Ernest Labrousse, j'ai entendu Labrousse. Alain Brousse, je non,
Labrousse.
Pas du tout.
L-A-B-R-O-U-2-S-E, Labrousse.
Ernest Labrousse, vous dites que, pareil, il n'utilisait pas le mot féministe, mais qu'il vous a toujours traité avec la plus grande égalité.
Oui, absolument. Moi, j'ai passé, on faisait à ce moment-là ce qu'on appelait le diplôme, ce qu'on a appelé plus tard la maîtrise. Bon, bah, j'ai fait mon diplôme avec lui, j'avais été lui demander un sujet, enfin tout ça, et j'ai été classée première. Alors, il était très content. Et c'est lui qui m'a dit, mais mademoiselle, il faut que vous passiez l'agrégation, et puis après, vous revenez me voir. Hein, il faut continuer. Non, c'était des hommes.
Et c'est vrai que vous avez pensé à un moment à vous diriger vite vers l'histoire, sans parler du féminisme, mais des femmes, et que c'est lui qui vous a dit,
oui.
Vous n'auriez pas de carrière là-dedans.
Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Oui. Ça l'a fait un petit peu rire, parce que en 49, Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe. Hein. Le livre lui-même, c'était l'automne, mais il y avait déjà eu des articles dans Les Temps modernes, j'avais déjà un peu lu tout ça. Et puis Simone de Beauvoir apparaissait quand même comme une figure, déjà à cette époque-là. Et je pense que c'est ça qui fait que je lui ai dit, mais j'aimerais bien faire quelque chose sur le féminisme. Il m'avait répondu... Oh, vous voulez faire quelque chose de très actuel. Et évidemment, on voit bien la référence. Et il m'avait dit, non, mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. Vous faites plutôt l'histoire sociale.
Vous avez dit un jour que cet intérêt pour les ouvriers venait peut-être d'un sentiment de culpabilité.
Oui.
Et quand on parle de cette culpabilité, vous avez aussi dit que vous aviez peur de faire partie des injustes.
Ah, aussi.
Si on peut reprendre l'expression d'André Malraux. Donc, s'intéresser aux ouvriers...
De François Mauriac.
Pardon.
François Mauriac.
Pardon.
François Mauriac, qui a cette très belle phrase...
Le camp des injustes.
Je me sentais... Je ne sais plus le début de la phrase. Je ne voulais plus faire partie du camp des injustes. Le camp des injustes. Et ça m'avait beaucoup parlé, cette expression-là. Oui. Le camp des injustes, moi, je me sentais dans le camp des injustes. Hein. C'est-à-dire, on voit très bien les classes favorisées. Les gens de milieu bourgeois qui finalement ont les privilèges que Marx avait décryptés, plus tard Bourdieu, pour tout ce qui est la culture et tout ça. Et ça, je l'analysais très mal naturellement, mais je le sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour moi, c'était une image répulsive. Il fallait sortir absolument de ça. Et puis après, à la Sorbonne, quand je suis étudiante, c'est quand même les années 47, 48, 49, 50. Là, c'est des années extraordinairement vivantes. C'est-à-dire que c'est l'après-guerre, c'est ce qu'on appellera plus tard les Trente Glorieuses, mais la France est très pauvre, démolie, très pauvre. Mais elle est en pleine reconstruction. Et les images fortes, c'est le travail. C'est la classe ouvrière, c'est l'industrie. Et les communistes, au gouvernement, au moins pendant un certain temps, qui endossent absolument l'uniforme national, enfin, ils veulent la reconstruction de la patrie et tout ça, Maurice Thorez en tête, au point même de dire au moment d'une grève, il faut savoir terminer une grève. Parce qu'il faut reprendre le travail. Il y avait une atmosphère où la classe ouvrière était quand même la grande figure. Vous voyez, c'était ça qui était important. Donc, d'une part, quand on était d'origine bourgeoise, on se sentait tout petit. Et puis, on voulait servir. Voilà. Ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était de servir la classe ouvrière.
Et si aujourd'hui vous ne vouliez pas appartenir au camp des injustes, vous pensez que quels seraient vos terrains d'études de prédilection ? Si aujourd'hui, les migrants.
Ah oui, ce qu'on voit actuellement, tout ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, les figures de migrants, les cortèges de migrants, les gens qu'on repousse d'une rive à l'autre de la Méditerranée, qu'on n'accueille pas. Ça, c'est, à mon avis, ça, c'est la grande figure moderne actuelle de la justice.
Le migrant.
Ah oui, oui.
Les classes ouvrières dans les années 50, le migrant aujourd'hui.
Ah oui. Ah oui, oui, je crois. Et je crois que pour plusieurs années, ça va être ça. Et on va être confronté à ce problème. Comment faire ? Enfin, accueillir sûrement de plus en plus de gens, mais il y aura des résistances partout, ça c'est certain. Et puis développer l'Afrique le plus possible, qui est quand même le grand réservoir de misère.
Au-delà de ça, il y a des territoires qui vont disparaître avec la montée des eaux.
Et aussi, bien sûr.
Les réfugiés climatiques.
Naturellement, les réfugiés climatiques, ça aussi, c'est quelque chose. Alors, dans ma jeunesse, on ne pensait pas du tout à ça. S'il y a des choses inconnues, c'était bien celle-là. Pas du tout.
Le climat.
Non. On avait froid et on voulait qu'il y ait beaucoup de charbon pour se chauffer. Et l'énergie atomique, puisque vous m'y faites penser. Moi, j'ai suivi, j'ai fait de l'histoire et de la géographie, forcément, c'était ensemble. Et je suivais à l'Institut de géographie, la rue Saint-Jacques, les cours de Pierre Georges, qui était un merveilleux professeur. Il était à fond. Comme nous tous, pour l'énergie atomique, bien entendu. C'était ça qui allait... Il passait son temps à nous dire, de toute façon, le pétrole, il y en a pour 15 ans.
Ça s'est un petit peu élargi. Hein.
Mais il croyait, tout le monde croyait ça, que le pétrole, c'était des réserves extrêmement minces, et que par conséquent, il fallait développer une énergie alternative, et ça pouvait être que l'énergie atomique. Ce sont quand même un grand savant communiste qui avait découvert l'atome. Et c'était, au fond, le progrès. Et on était tous pour l'énergie atomique à fond. Alors là, on va
dire. Et aujourd'hui l'énergie atomique ?
Non, tout en étant très conscient du fait que c'est pas simple de changer de système énergétique. Et on le voit bien en Allemagne. On le voit bien en Allemagne où, choisissant le charbon, ils ajoutent tout ce qu'ils peuvent du point de vue du CO2,
dans le mix,
etc.
énergétique.
Donc c'est compliqué.
Depuis quelques années, Michel Perrault insiste beaucoup pour dire qu'en entrant dans l'histoire des femmes, elle est aussi rentrée dans sa propre histoire. Ça lui a permis aussi d'appréhender différemment sa propre mère. Elle dit aussi que cette mini-révolution dans une science humaine alors un peu verrouillée a aussi été une mini-révolution personnelle. On va passer à le sujet qui me passionne, mais tout me passionne, mais celui-là encore plus. 1968, qui réveille une conscience chez vous, quelque chose qui était là quand même depuis toujours. C'est le sujet qui vous intéressait beaucoup, Mona Esouffez-vous, quand vous étiez ensemble professeur à Caen. Mais en 1968, vous commencez à vous intéresser vraiment à l'histoire des femmes. Comment se passe ce déclic, en fait? Comment prenez-vous conscience? Parce que vous avez toujours dit que vous n'avez pas été une femme en souffrance avant ça.
Non.
Donc sans souffrance, on ne se rend pas forcément conscience.
Absolument.
Déjà.
Tout à fait.
Et comment la prise de conscience a eu lieu alors?
Elle a eu lieu quand j'étais à Caen, tout de même. Quand j'étais à Caen, à partir de 51, j'étais professeur à Caen, j'étais dans un lycée de filles. Et là, j'ai réalisé ce que c'était quand même que l'éducation de filles de la bourgeoisie. Éducation que, au fond, j'avais pas tellement connu, puisque mes parents, ils étaient bourgeois, si on parle le niveau social, si vous voulez, mais pas dans l'esprit, du tout, du tout. C'était des gens très ouverts, bohèmes, artistes, enfin. Donc, je connaissais pas ce milieu bourgeois. Et j'ai vu ce que ça pouvait être, l'éducation de filles, que on mettait là au lycée pour qu'elles aient quand même... C'était déjà, au fond, d'ailleurs, la bourgeoisie plutôt progressiste. Mmh. Parce que les autres les mettaient dans des cours privés. Et d'ailleurs, pour nous, la directrice, on avait évidemment une directrice, ne cessait de nous dire « Attention, ne soyez pas trop hardis. » Enfin, elle ne disait pas ça comme ça, mais « On nous regarde. On nous regarde. » Et je me souviens que les petites élèves de seconde, j'avais une classe de seconde, qui étaient pensionnaires, me disaient « Mademoiselle, est-ce que vous pourriez intervenir pour nous? On voudrait aller au ciné-club. » Mais la directrice ne veut pas nous laisser sortir. Alors, j'étais intervenue, j'intervenais souvent pour mes élèves. Et la directrice me dit « Oui, on peut essayer d'organiser ça, mais quel est le programme ?» Alors, c'était une partie de campagne de Renoir. Je savais plus ou moins que c'était un petit peu... Bon, mais je lui ai dit, madame la directrice, c'est très bien, hein, Renoir, c'est un grand... Bon, alors d'accord, elle donne l'autorisation. Et elle y va, les élèves y vont, j'y vais, moi aussi, naturellement. Et le lendemain, elle m'appelle. Oh, elle me dit, mademoiselle... Écoutez, franchement, vous savez, c'était juste de donner ce spectacle à ses enfants d'une fille séduite par un jeune ouvrier. Toujours l'idée, vous vous rendez compte? Vous
on
rendez
nous regarde.
Compte, on nous regarde. On nous regarde. D'autant plus que les élèves, elles étaient rentrées, elles avaient, je ne sais pas ce qu'elles avaient bu, elles étaient un peu pompettes, elles étaient un petit peu comme ça. Oh, ça avait été l'esclandre. Et je ne crois pas qu'elles y soient retournées ensuite. Hein.
Au cinéma.
Voilà. Donc, il y avait toujours cette idée des filles, qu'est-ce qu'on fait pour les filles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les filles. Et évidemment, en contrepoint, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, Sartre, le couple idéal, les amours nécessaires, contingentes, etc., etc. Oui, ça avait beaucoup compté, beaucoup compté. Et quand j'ai adhéré, j'ai pas adhéré tout de suite au Parti communiste, mais j'avais adhéré à l'Union des femmes françaises, qui était l'organisation de masse du Parti communiste pour les femmes. Et c'était à l'époque de la guerre d'Algérie. Les Alliés ont passé quand même. Et quand elles m'ont invité, ces dames de... C'était pour faire des brassières pour les petits Algériens. Oh, tricoter. Je me suis dit, franchement, non. Et je leur ai proposé de faire une manifestation de femmes contre la guerre d'Algérie. Et on a organisé ça avec la secrétaire de la section, là. Oui, si, je devais déjà être au Parti communiste à ce moment-là. Et c'était passionnant, parce qu'il s'agissait justement d'aller sur le plateau pour voir les femmes des camarades, qui n'avaient aucune envie d'aller à la manifestation. Alors là, j'aime autant vous dire, zéro. Mais qu'on avait quand même convaincu, et il y en a peut-être une soixantaine quand même, qui sont venues, et on a manifesté avec des banderoles contre la guerre et tout ça. Bon, et enfin bon, c'est pour vous dire que les femmes, je ne vais pas épiloguer trop là-dessus, mais oui, la question des femmes, tout de même à cette époque-là,
était sous-jacente. Vous avez d'ailleurs consacré un chapitre de votre thèse aux grèves de femmes.
Oui, femmes dans les grèves et grèves de femmes. Ou d'ailleurs, quand je me relis maintenant, je me trouve très condescendante
avec ces femmes.
Oui. Oui. Je suis un peu, au fond, choquée qu'elles ne soient pas plus militantes. J'appliquais vraiment mes idées des années 50. Et je vais republier ça dans un bouquin qu'on me demande maintenant, mais je vais y mettre un commentaire pour expliquer pourquoi j'ai dit ça.
C'était sans doute lié à votre propre... Enfin, c'est-à-dire que...
Oui, j'étais plus militante qu'elle, si vous voulez.
Vous étiez plus
militante. Ce qui est ridicule.
Et vous avez...
complètement grotesque. Comme toujours, dans ce cas-là. Toujours.
Vous dites d'ailleurs que le fait de vous intéresser à l'histoire des femmes d'un point de vue universitaire, d'un point de vue de la recherche, et de le faire coïncider avec un engagement personnel, ça a été quelque chose de nouveau pour vous, d'assez décisif.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Et... vous parliez de 68, j'ai été très militante dans 68, mais 68, je dirais que le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, n'est pas né en 68, il est né de 68. Et du fait que 68 ne s'occupait pas des femmes. Bon, les filles étaient là. Les filles étaient là. D'abord, il y en avait déjà beaucoup plus que de mon temps. Ça avait encore progressé beaucoup dans les 15 années suivantes. Le mouvement de 68, c'était quand même un mouvement viril. Et les étudiants voulaient même que les filles... fallait pas qu'elles soient là à faire des barricades parce que c'était pas leur place. Et qu'elles allaient attraper mal. Il y avait encore une vision très paternaliste, au fond. C'est compliqué, parce qu'il y avait aussi une plus grande égalité entre les garçons et les filles, notamment sur le plan sexuel, ils ne demandaient plus l'autorisation aux parents et tout ça. Il y avait une émancipation, mais cette émancipation n'était pas politique. Elle était plus privée, si on veut, que véritablement politique. Dès qu'il s'agissait de politique, les filles...
Il fallait qu'elles sortent.
Chérie, fais du café, fais-nous du café.
En 74, d'ailleurs, vous avez créé un groupe de discussion entre femmes,
oui,
qu'avec des femmes.
74, vous avez raison, 74. Oui.
Qu'avec des femmes, et vous parliez de tout ce qui vous concernait. Oui. Du coup, aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, vous savez, il y a eu une polémique il y a 2 ans, je crois, autour des réunions entre racisés, des gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas d'hommes blancs qui rentrent dans les réunions. Oui. Vous, ça ne vous paraît pas choquant comme méthode ?
Non, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Je comprends très bien que des femmes puissent avoir besoin de discuter entre elles. Surtout, peut-être, des femmes maghrébines qui pourront jamais, s'il y a des hommes, parler de leur corps, des problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Enfin, c'est tellement clair. Non, moi, ça ne me choque pas du tout.
Ça a choqué vos confrères historiens et historiennes que vous passiez de l'histoire sociale des ouvriers à l'histoire des femmes ?
Choqué, non, mais incompréhension, oui. Ouais. C'est-à-dire, vous avez fait ou tu as fait des choses très bien là, en histoire sociale, pourquoi tu laisses tomber ça ? Pourquoi tu ne continues pas là-dedans ? Qu'est-ce que tu vas faire sur les femmes ? Ce n'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Et obscurément, il y avait l'idée que c'était se dévaluer. Que aller travailler sur les femmes, c'était travailler sur des trucs marginaux, sans grand intérêt.
Quelque part, c'est travailler sur des sujets qui intéressent principalement les femmes, et les choses qui n'intéressent principalement que les femmes sont dévaluées. Toujours, aujourd'hui aussi.
Oui.
Vous avez même d'ailleurs dit à propos d'un de vos propres livres sur l'histoire de chambre, les histoires de chambre, vous avez dit « J'espère que ce n'est pas une œuvre de dame pour les femmes.
» Oui.
Il y a l'idée que si les hommes ne nous lisent pas, de toute façon, quelque part, ce n'est pas une œuvre universelle ou ce n'est pas une œuvre à part entière.
Oui, c'est un peu vrai. C'est vrai quand même qu'il est légitime de vouloir qu'un travail, un livre, une œuvre soit entendue par tous. Hein. Et de même que c'est scandaleux que les femmes n'aient pas lu, n'aient pas pu accéder à un certain nombre de choses, de même, c'est regrettable que les hommes ne s'intéressent pas à ce qu'écrivent les femmes, quand même. C'est quand même une barrière à détruire, malgré tout.
L'histoire des femmes, elle est écrite par rapport aux hommes.
Oui.
C'est-à-dire que même les sources qu'on a sont des sources masculines sur l'histoire des femmes,
bien sûr,
pendant très longtemps.
Bien sûr, encore que, si on cherche bien, on cherche aussi à trouver des sources de femmes. Des écrits de femmes, des correspondances, des journaux intimes, il y en a quand même. Et à partir du moment où on pose la question des sources, on va en trouver davantage et surtout on va réfléchir aux raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas été davantage enregistrées. Pourquoi pendant la guerre de 14-18, par exemple, on a conservé beaucoup plus les lettres des poilus que les lettres de leurs épouses. Il y a des raisons matérielles. Les poilus, ils étaient dans les tranchées, ils quittaient la tranchée, ils ne conservaient pas nécessairement les lettres qu'ils avaient reçues de leurs femmes, ça se comprend très bien. Mais il y a aussi l'idée que c'était moins important que la lettre qu'on reçoit du front, on va la conserver. C'est quand même, évidemment, un témoignage important. Alors, pourquoi est-ce que c'est relationnel ? Je dirais que quand on a commencé l'histoire des femmes, on a surtout voulu rendre visibles les femmes, hein, qu'elles soient vives, les sortir de l'ombre, du silence, de la nuit dans laquelle elles étaient plongées. Mais tout de même, très rapidement, on s'est posé la question de pourquoi c'est comme ça, hein. Où sont les hommes? Et qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Et il est clair que on ne pouvait pas faire une histoire des femmes qui ne pose pas à un moment quelconque de ce qu'on appellera un petit peu plus tard la domination masculine. Et par conséquent, les relations entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, quand nous avons publié Histoire des femmes en Occident, plus tard, en 91-92, donc le temps passe beaucoup dans tout ça, dans notre introduction, nous insistons beaucoup sur le fait que c'est une histoire relationnelle et qu'on ne peut pas écrire l'histoire des femmes sans poser la question des hommes.
Relation avec les hommes. Vous avez d'ailleurs rajouté l'histoire des femmes en Occident suite à des nouvelles questions qui vous sont venues. Par exemple, vous avez beaucoup dit que la démocratie, ou en tout cas un système le plus démocratique possible, était nécessaire à l'avènement des droits des femmes, oui, à leur apparition dans la sphère publique, etc. C'est quelque chose que vous pensez toujours aujourd'hui, qu'il fallait un système,
oui,
démocratique.
Vous avez parlé de en Occident, je reviens juste, oui, un instant là-dessus. Au point de départ, nous avions appelé notre histoire des femmes, histoire des femmes, tout simplement. Et puis, avec Pauline Schmitt, alors que nous étions en train d'élaborer tout ça, qui était quand même un gros travail, le bruit en avait couru, et ça avait quand même intéressé des gens. Et on avait été invités à Genève, par l'université de Genève. On me dit, Michel Perrault, le bruit court, est-ce que vous pourriez venir nous en parler? Alors Pauline et moi, on est allés là-bas et on a présenté ce qui était encore un projet, mais un projet déjà très très avancé, devant un public mélangé. Et un jeune homme, probablement d'origine maghrébine, il en avait le type physique si l'on peut dire, a levé la main après dans la discussion en disant, mais vous appelez ça histoire des femmes, mais est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez dit s'applique à toutes les femmes? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est surtout les femmes en Occident, dans le monde occidental? Ça nous avait un peu surprise, un peu décontenancé. Et puis, revenant à notre hôtel, avec Pauline, on en avait parlé, il avait dit, au fond, il a raison. Il a raison, et il n'y a qu'à appeler ça histoire des femmes en Occident. Comme ça, ça sera nous, hein, et on ne prétend pas donner de leçons aux autres. C'est à elles d'écrire leur histoire, aux Japonaises, aux femmes du Maghreb, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça en Occident. Voilà, c'est comme ça vient de là.
Mais c'est lié à ma seconde question, qui est donc, est-ce que vous croyez que la démocratie est nécessaire à l'avènement de
la femme? Elle est la condition nécessaire, mais elle n'est pas la condition suffisante, évidemment. Mais nécessaire, absolument, absolument. Il ne peut pas y avoir... La démocratie, c'est au moins le postulat de l'égalité. Or, que demande le féminisme, sinon l'égalité entre les sexes, hein, et la liberté, évidemment. Mais c'est fondamental. Et On peut pas arriver à construire un féminisme égalitaire s'il n'y a pas la démocratie. D'ailleurs, dès qu'il y a, on le voit bien, quand il y a un retour de régime totalitaire un peu partout en Europe aujourd'hui, on voit bien que ce qui est menacé d'abord, ce sont les droits des femmes, et notamment les droits du corps des femmes. Hein. Avortement, c'était... contraception, réduire les plaintes sur le viol, pas question de MeToo et de harcèlement sexuel, tout ça.
C'était une grande thèse de Françoise Héritier, ça, de dire que le corps des femmes était un levier politique immense.
Bien sûr.
Le pouvoir sur le corps des femmes.
Tout à fait, tout à fait. Absolument.
Vous vous êtes exprimée d'ailleurs au moment de MeToo.
Beaucoup, oui.
Vous en pensez quoi aujourd'hui de ce mouvement qui a un an, à peu près ?
Ah, je pense que c'est très important, très important. Une révolution, non. Une révolution, c'est beaucoup plus compliqué de faire des révolutions. Mais un événement, oui. Un moment important, oui. Mais, je dirais, à situer dans une évolution de plus longue durée. Au fond, le harcèlement sexuel, non. Tu ne me toucheras pas, vous ne me toucherez pas, mon corps est à moi. C'est ce que disaient les femmes du MLF dans les années 70. Quand elles disaient notre corps, nous-mêmes, c'était la grande devise. Our body, ourselves, nous, on disait notre corps, nous-mêmes, naturellement. C'était très, très important. Et ça voulait dire la contraception. Il faut voir que la contraception, il y avait une loi en 67 sur la contraception. Mais trouver la pilule, en pharmacie, c'était le parcours de la combattante. Les pharmaciens ne la dissimulaient, ne la donnaient pas. Quand on la demandait, c'était un peu... On est une fille perdue. C'est comme si on était une prostituée. C'était incroyable, incroyable. Et il a fallu du temps pour que véritablement ça devienne quelque chose. Les préservatifs, 10 ans plus tard, on trouve des préservatifs avec des appareils partout. Mais il faudra 10 ans pour ça. Il faudra une dizaine d'années. Et les années 70, 80, très, très, très importantes. Et puis le droit à l'avortement, qui était encore plus scandaleux. Encore plus scandaleux. Et par conséquent, MeToo se situe. Puis alors après, il y a eu le viol. Faut pas oublier le procès de 78 à Aix-Marseille avec Gisèle Halimi qui parle pour 2 lesbiennes qui ont été violées par 3 garçons, qui les ont violées et qui se défendent au tribunal en disant qu'est-ce que ça peut leur faire, elles étaient lesbiennes. Ce qui est invraisemblable.
J'ai un souvenir glaçant d'une vidéo qui est ressortie de l'INA il y a quelque temps, une vidéo de 1974 où il y a un micro-trottoir sur le viol. Oui. On pose la question qu'aux hommes et oui. Où ce n'est que blague et de temps en temps.
Voilà, oui.
Il faut quand même mesurer.
Et puis, elles ne sont pas si mécontentes que ça. C'est toujours la même idée. C'est qu'au fond, les femmes trouvent du plaisir à être forcées. Qu'on les force un peu, mais après elles sont très contentes. Ça, c'est et je pense que ça a été pendant très très longtemps le fond d'une bonne conscience pour les hommes.
Qu'au fond, oui, d'accord.
Elles ne demandent que ça. Voilà, c'est tout. MeToo, c'est dans cette mouvance-là. Voilà. C'est un événement, mais un événement qui se situe dans un mouvement de beaucoup plus longue durée et qui est celui des femmes revendiquant le droit à leur propre corps.
Vous y croyez à la théorie du backlash ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des avancées féministes ?
Théorie, non, mais en pratique, c'est souvent. C'est très fréquent. Ça se comprend très bien, d'ailleurs, parce que c'est un événement. C'est un événement qui met en branle la société, des hommes, des femmes aussi, quelquefois. Qui ne savent plus très bien comment se situer, etc., etc. Alors après, il y a une espèce de retour en arrière. On a été trop loin, alors on veut revenir. Oui, c'est souvent. On le voit aux États-Unis.
Oui. Vous croyez que les élections, que ce soit... Alors elles ont beaucoup, beaucoup d'autres raisons, explications, mais que ce soit Trump ou Bolsonaro, de ces espèces d'images de mâle alpha, font un peu partie de ce backlash, de ce retour en arrière.
Ouais. Absolument. Trump, comme l'a écrit très bien une politologue, je ne sais plus son nom, la revanche de l'homme blanc.
Ça, vous y croyez,
oui. Ah oui, absolument. Absolument.
Vous avez eu des grandes amies, d'ailleurs, intellectuelles américaines. Je pense à, notamment à Natalie Zeymon-Davis, que oui. Vous trouviez très belle.
Elle est magnifique. C'est une Néfertiti, absolument. On l'appelait Néfertiti dans sa jeunesse, tellement. Elle a un très beau visage, magnifique. Et John Scott.
Et John Scott.
Ça a été mes deux... J'ai eu d'autres amis, mais c'est surtout ces deux-là.
Est-ce qu'elles vous ont ouvert, vous, la française, à une théorie du genre un peu plus poussée que ce que
oui.
vous étiez en train de faire
oui,
en France ?
Surtout John.
Oui.
Surtout John Scott. John Scott, il ne faut pas l'oublier, elle a écrit le premier grand article historique, 86, traduit en 88 en France, par Eleni Varikas, qui est d'ailleurs une de mes anciennes thésardes, elle avait fait sa thèse avec moi, sur le genre. Le genre, une théorie utile de l'analyse historique. C'est vraiment un article très, très important. Et oui, John Scott, c'est une amie, une théoricienne. Elle m'a ouvert beaucoup, beaucoup d'horizons. Parfois, de manière, comment dire... j'ai pas toujours compris tout de suite. John est très, à juste titre, très critique sur la laïcité. Elle dit que la laïcité, c'est souvent un masque, hein, et les laïcs n'ont cherché qu'à opprimer les femmes, etc., etc. Moi, la laïcité, j'y tiens quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et...
Dans quel sens, pour elle, les laïcs cherchent à oppresser les femmes ?
Elle pense que le discours laïque n'est pas un discours libérateur pour les femmes.
Que dire, par
que
exemple,
c'est un...
pour la laïcité, enfin, bah, les femmes qui portent le voile ou...
Oui, ouais. Oui, par exemple, John trouve que notre loi sur le voile, hein, la fameuse loi qui interdit le port du voile à l'école, n'est pas une bonne loi. Elle pense, comme beaucoup d'Américaines, que le port du voile, c'est très secondaire, ça n'a pas d'importance, et qu'il est plus important que les filles viennent voiler, mais à l'école, que ça. Alors que, bon, voilà. Alors, sur ce point, par moment, je pense qu'elle a raison, puis par moment, je me sens plus vieille laïque, finalement. Voilà.
J'aime bien parce que vous dites parfois quand vous ne savez pas.
Comment ?
Vous dites parfois quand vous ne savez pas. On dit, je ne sais pas au final ce que je pense.
Ben oui.
Ouais. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui disent oui. qu'ils ne savent pas.
Oui, oui. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a raison. Je voyais. Par ailleurs, il faut prendre compte aussi, une société américaine, c'est pas construite comme la société française. C'est vrai que la laïcité, d'abord, ils n'ont pas vraiment de laïcité. Hein,
Dieu est présent
jure
tout
Dieu,
le temps.
Etc., etc. Alors, toute la question est-ce qu'au fond, la laïcité nous a servi, nous, femmes françaises, à être plus émancipées que des femmes du monde anglo-saxon qui n'ont pas la laïcité ? Ben, la réponse est très ambiguë, cette question. Elle est en effet très ambiguë.
Tout au long de cet entretien, j'ai été très touchée par la douceur de Michel Perrault, par sa façon de me regarder extrêmement bienveillante, même quand je bafouillais ou que je m'en mêlais les pinceaux historiques. J'avais presque l'impression qu'elle m'encourageait, et dans cette douceur, je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai pensé, il y avait une forme de solidarité. Et alors, pour parler de vos amitiés féminines, alors vous avez été très amie avec Mona Ozouf, avec Nicole Ledoirin, vous étiez professeur au même endroit
à
Caen, avec Françoise Héritier, avec Nathalie Zeymon-Davis. Avec... Voilà, c'est des amitiés qui ont été très fertiles, qui ont été très importantes,
très important.
Intellectuelles aussi.
Avec Françoise Héritier, peut-être plus encore qu'avec n'importe qui.
Et alors, sur ces histoires d'amitié, j'avais envie de vous demander ce que vous pensiez de ce qu'a dit une écrivaine d'une quarantaine d'années britannique qui s'appelle Zadie Smith, que j'ai lu dans un magazine qui s'appelle Society, qui est sorti il y a pas longtemps, où elle dit, sur l'amitié féminine, elle dit « Les femmes vivent dans un état constant de comparaison. Une femme se compare toujours par instinct aux autres, observe inconsciemment la concurrence. Ça ne sert à rien de le nier pour un argument féministe. » En gros, elle parle notamment d'une série qui a beaucoup été vue, qui s'appelle Girls, où elle dit on a beaucoup critiqué les relations entre les filles de cette série en disant que au fond elles s'aimaient pas, elles étaient pas vraiment amies. Et voilà, et elle dit de toute façon les femmes sont en concurrence, leur relation n'est pas moins intéressante, pas moins passionnante, mais il y a toujours cette histoire de concurrence.
Moi, je serais plus optimiste quand même. Je serais un peu plus optimiste. Je pense que, enfin, moi j'ai vécu ça comme ça. Entre les femmes, il y a quand même On peut arriver facilement à trouver des liens de solidarité, parce que les femmes ont vécu des choses identiques. Soit dans leur vie privée, soit justement dans leur vie professionnelle. Elles savent très bien qu'elles sont minoritaires et qu'elles vont se heurter à un mur de verre assez souvent, qu'elles ont peut-être intérêt à serrer les coudes, au contraire, pour y arriver. Moi, j'ai plutôt vécu, pour ma part, des situations de solidarité plutôt que de rivalité. Plutôt.
J'avais plutôt envie de vous entendre dire ça.
Oui. Et je crois que l'amitié féminine, c'est quelque chose de très, très important. Ça a toujours été. On a toujours dit que l'amitié, c'était un truc viril. Non, c'est pas vrai. Les femmes ont très, très bien connu les amitiés aussi. Elles la vivaient comme elles pouvaient, avec leurs conditions, naturellement. Mais je pense que c'est important. Très, très important.
Et alors, je voudrais en revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la fragilité des acquis, parce qu'on parlait de Trump. Vous dites à chaque fois qu'un système autoritaire se met en place, les premiers acquis qui sont attaqués, c'est les acquis des femmes, des minorités aussi, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que vous pensez qu'on ne se bat que pour son propre temps ?
Non. On est obligé de se battre dans son propre temps parce que les problèmes que l'on a sont les problèmes d'une époque, il faut les résoudre. Et bien sûr, mais je pense qu'il y a une transmission. Je pense qu'il y a une transmission. C'est d'ailleurs une transmission à préserver et à cultiver. La transmission, c'est aussi quelque chose, j'allais dire, très important dans l'histoire des femmes. Les femmes ont longtemps été silencieuses, on les voyait pas beaucoup, etc., etc. Mais elles avaient quand même une histoire, ô combien. Et souvent, cette histoire est une histoire de transmission,
de
transmission,
savoir.
Mais ne serait-ce qu'à leurs filles. On tolérait d'ailleurs qu'elles transmettent à leurs filles telle ou telle chose. Mais du coup, ça devenait pour elles un devoir, un axe et même un pouvoir. Et je pense donc que ce bel héritage de l'histoire des femmes silencieuses est à revendiquer pour les femmes d'aujourd'hui qui parlent. Il faut aussi qu'elles
revendiquent cette transmission, cet héritage.
Elles ont à transmettre. Et les femmes d'aujourd'hui ne se battent pas que pour elles. Elles se battent pour celles qui vont venir après. Il faut savoir que on est loin d'être au bout de l'histoire des hommes et des femmes, bien entendu. C'est une histoire de si longue durée, avec des structures que Françoise Héritier a montrées, tellement inégalitaires qu'elles sont loin d'être réglées. Quand on regarde le monde entier, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, et qu'on voit ce que telle jeune femme du Pakistan, qui a failli, alors là pour une question de blasphème, mais a failli être lapidée en quelque sorte, quand on voit ce qui se passe dans le monde, les femmes sont opprimées. L'oppression demeure. Et par conséquent, nous ne nous battons pas uniquement pour les femmes occidentales, on se bat pour l'ensemble des femmes du monde. Et ces choses-là, il faut les transmettre.
Et justement, la transmission, c'est quand même un rôle clé des historiens de l'histoire.
Ah oui.
L'histoire
oui.
qui se bat contre la nuit. J'ai entendu cette belle formule.
Se bat contre la nuit.
L'histoire se bat contre la nuit.
Oui, l'histoire se bat contre la nuit et contre la nuit qui tombe toujours. La nuit tombe.
Englouti.
Et par conséquent, c'est en effet toujours à recommencer, mais recommencer pas exactement au même stade. On se recommence des processus, mais à un stade différent. Et l'histoire, là, joue un rôle important. Et c'est sans doute ce qu'il y a peut-être de réconfortant à faire l'histoire des femmes, c'est qu'on se dit que ça doit ou ça devrait ou ça peut servir aux femmes. Voilà. Parce que l'oubli, c'est vrai que c'est très... L'oubli revient toujours. C'est comme si la mer se refermait à nouveau tout le temps. Donc, il faut rappeler, en effet, que les choses n'ont pas toujours été comme ça, que des victoires ont été remportées, que c'est fragile, que... il faut continuer à raconter.
Si vous aviez mon âge aujourd'hui, vous seriez historienne ?
Oh, je ne sais pas, j'ai souvent envie d'être autre chose et d'être danseuse. par exemple, artiste, journaliste. Je trouve que c'est un métier formidable. Hein,
vous l'avez fait un petit peu quelque part.
Comment ?
La transmission du journalisme, vous l'avez fait un petit peu à France Culture pendant, pendant les années.
Mais je n'ai jamais regretté d'avoir fait de l'histoire. Et je me sens bien en histoire. Je me sens historienne quand même.
J'ai deux dernières questions à vous poser. Et la première, c'est est-ce que c'était mieux avant ?
Ah non, c'était pas mieux avant. Non, non, c'était absolument pas mieux avant. Les femmes, regardez là. Je sais pas si on regarde la mortalité infantile et des femmes en couche et au moment de l'accouchement. Mais on a fait des progrès gigantesques dans ce domaine-là. Les statistiques sont éclatantes. Si on considère que vivre est un bien, peut-être que ça se discute après tout, l'espérance de vie des hommes et des femmes, mais des femmes encore plus que des hommes, a progressé depuis 50 ans de manière remarquable. Bon, c'est un critère, vous me direz. Après tout, le bonheur n'est peut-être pas uniquement de vivre, mais enfin, après tout, on n'a qu'une vie. C'est la seule chose qu'on ait. Alors, par conséquent, c'est la terminer trop tôt, c'est pas non plus nécessairement bien. Donc, non, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Et je crois pas qu'on puisse dire ça.
Surtout quand on est une femme, je pense.
Oui, oui.
Et ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Oui et non. Oui, absolument. Absolument. Parce que qu'est-ce que exister et ne plus exister ? Voilà. Bon, c'est-à-dire que mon passage en ce monde va s'achever dans pas très longtemps, désormais. Et quand on y réfléchit, bah, c'est quand même dramatique. Pour moi, c'est quand
à
même
titre individuel.
Surtout, peut-être ne pas voir ce que vont devenir mes petite fille, par exemple, mes petits-enfants, bon, ça m'ennuie beaucoup, ça, de ne pas savoir ce qu'ils vont devenir. Et de manière générale, qu'est-ce que va devenir la Terre ? C'est quand même... J'aurais aimé en savoir un peu plus, tout en sachant bien que, en tout état de cause, je dirais, même si je vivais longtemps, je ne saurais pas ce que va devenir la Terre. Et ça, alors là... L'énigme est partagée par tout le monde. Ce qui, d'une certaine manière, d'ailleurs, me réconforte. Parce que
personne ne sait.
Ça me réintroduit dans le monde ignorant des vivants, que je vais quitter avant les autres, mais quand ils partiront eux aussi,
ils n'en sauront
peut-être
pas
beaucoup plus que moi. Donc, oui, c'est dramatique de mourir, bien entendu. Mais. Les choses étant ce qu'elles sont, que voulez-vous ? Il faut, George Sand disait, vivre c'est mourir. Elle a raison, vivre c'est mourir. Et elle ajoutait, et mourir c'est vivre de mieux en mieux. Alors là, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas.
Merci beaucoup, Michel Perrault. Merci énormément pour votre temps. C'est un
Merci
grand plaisir pour
à
moi.
Vous, Marie.
Un immense merci à Michel Perrault pour sa bienveillance et pour l'eau gazeuse. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Réalisation Aurore Meilleur-Maillot. Mixage Laurie Galigani. Coordination et prise de son Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.